Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Lancement hier à Kinshasa du programme de vulgarisation de la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Son objectif, à l'horizon 2050, la RDC constitue un espace qui assure le bien-être de sa population, explique le ministre Guy Loando. Province de l'Ituri, seulement 25 anesthésistes sur plus de 4 millions d'habitants. Conséquence, augmentation des cas de mortalité, s'inquiète le président provincial de cette corporation à l'occasion de la journée mondiale des anesthésistes. Oudi Pio Sindani plaide pour une politique qui encourage les étudiants à embrasser cette filière. Et puis, l'invité, Dr Franck Mouindo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni, il parle de ses inquiétudes par rapport à la résurgence de Ebola à Beniville en cette période de grève des infirmiers. Madame, Messieurs, bonjour. La gestion harmonieuse de l'espace physique de la RDC et particulièrement de la ville-province de Kinshasa, ainsi que la lutte contre une occupation déficitaire du territoire national, tel est le cas actuellement, ceci est parmi autant des visées que le ministère congolais de l'aménagement du territoire entend atteindre à travers le programme de vulgarisation de la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, programme que le ministre Guy Loando a lancé samedi à Kinshasa. Cette campagne ouverte hier concerne spécifiquement la capitale congolaise. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
Outre l'appropriation des résultats de la réforme de l'aménagement du territoire, la campagne ouverte le samedi tient à répondre aux attentes de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et du sous-sol, ainsi que le développement durable gage d'une gestion harmonieuse des espaces. Guy Loando.
La gestion harmonieuse va permettre d'éviter ces problèmes de superposition de titres, les problèmes de construction anarchique qui sont à la base des érosions, à la base de tous ces problèmes que nous déplorons de gestion de l'espace physique.
Et comme illustration, ici dans la ville-province de Kinshasa,
la commune de Yamaloukou occupe 70% de l'espace physique de la ville-province de Kinshasa. Les 30%, c'est Gombe, c'est ma campagne, c'est Ngaliema, mais ce n'est pas ça Kinshasa. Ça, ce n'est qu'une infime partie. Il est temps que cette promiscuité que nous déplorons dans la ville-province de Kinshasa, les artères qui sont occupées, des quartiers qui sont complètement débordés, pour que les gens puissent avoir des logements décents, que les institutions aillent vers les espaces inoccupés. Le projet Kitoko va venir résorber ce problème vers la partie est de la ville-province de Kinshasa.
Pour le ministère, la vision de la politique nationale de l'aménagement du territoire est donc qu'à l'horizon 2050, la RDC constitue un espace plus cohérent, plus attractif et plus compétitif économiquement. Un territoire qui assure le bien-être de sa population dans un environnement intégré et durable.
Par ailleurs, le forum de validation du document de politique scientifique nationale s'est clôturé hier à Kinshasa, travaux organisés par le ministère de la Recherche scientifique en collaboration avec l'UNESCO. Ces assises de 72 heures ont produit un outil de gestion globale du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique. Nous proposons un extrait du mot de clôture du ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda Kabangu, propos choisi par Richard Junior Kamunga.
Ce document que vous venez d'adopter contient les éléments essentiels de la nouvelle vision de la politique scientifique qui repose sur des principes et des repères pour la promotion de la science et de la technologie en vue d'un développement durable de notre pays. L'adoption de ces principes au cours des présentes assises permet désormais d'élaborer un plan d'action stratégique pour la mise en œuvre de cette politique scientifique et de tenir l'atelier de restitution de ce plan d'action stratégique. Cependant, la dite mise en œuvre est tributaire de certains facteurs et conditions dont notamment la paix et la stabilité politique, la volonté politique, la mobilisation des ressources et surtout l'octroi des crédits, l'engagement de tous les scientifiques des centres et instituts de recherche, tant publics que privés. J'ose croire, à mon humble avis, que le forum qui se termine marque le point de départ d'une prise de connaissance et de conscience par les scientifiques congolais.
Le Maniema vient de produire ses propres ingénieurs en bâtiments et travaux publics, une première pour cette province. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu hier à Kindu devant plusieurs autorités provinciales, académiques, les parents et aussi des curieux qui ont manifesté un sentiment de joie. Témoin de l'événement, Florence Kizalunga.
Après 5 ans d'existence, l'Institut supérieur de bâtiments et travaux publics vient de lancer sur le marché d'emploi 11 ingénieurs BTP à zéro, dont une femme. Le directeur général s'en félicite, John Kiuna.
C'est un sentiment de satisfaction car nous avons été au début de cette initiative pour que nous puissions créer chez nous au Maniema une institution d'enseignement supérieur capable de fournir les ingénieurs en construction. Et aujourd'hui, nous venons de lancer sur le marché d'emploi lauréat en bâtiment et travaux publics ainsi qu'en géomètre topographe.
Avec sourire aux lèvres, ces nouveaux ingénieurs promettent leur contribution dans le développement de la province.
Je promets faire tout ce qui est recommandé pour un ingénieur, notamment concevoir, construire et en plus particulier résoudre les problèmes de toute la population.
Présente à la cérémonie, la présidente de l'Assemblée provinciale exhorte la jeunesse, surtout les filles, à faire l'IBTP pour se doter ses propres ingénieurs. Gertrude Kitembo.
Je sais que c'est difficile qu'une fille se lance dans les sciences exactes. Il n'y a rien qu'une fille ne peut pas faire. Il faut s'accrocher.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la province de Litouri compte seulement 25 anesthésistes sur une population de plus de 4 millions d'habitants, révélation du président provincial de cette corporation à l'occasion de la Journée mondiale des anesthésistes et réanimateurs, journée commémorée le 16 octobre de chaque année. Oudi Pio Sindani Aaron demande ainsi au gouvernement de définir une politique pour encourager les étudiants à embrasser cette filière car, dit-il, l'insuffisance des spécialistes dans ce domaine a comme conséquence l'augmentation des cas de mortalité dans plusieurs structures sanitaires. Le président provincial des anesthésistes en Ituri s'exprime au micro de Ezekiel Mousalia.
La crainte qui existe, il y a des personnes qui pensent que l'anesthésie est difficile à aborder. C'est pour cela que nous sensibilisons les gens maintenant, qu'ils viennent, pour que nous puissions prendre à charge la population à l'intérieur. Il y a des gens qui meurent à cause de l'anesthésie dans la brousse. Et nous avons une insécurité à sorte que les gens qui veulent venir à Bounia ne peuvent pas venir. Nous avons trouvé que avec les anesthésistes, les chirurgiens sont à l'aise pour opérer. Tandis que sans anesthésiste, les chirurgiens lui-même ordonne de donner de l'anesthésie alors qu'il ne connaît pas qu'est-ce qu'on va faire pendant la réanimation. C'est pour cela que nous disons qu'il faut former les gens qui peuvent aussi aller travailler en brousse. Et si les autorités peuvent nous aider à anéantir cette insécurité, peut-être les gens qui ont moyen peuvent venir ici dans un premier temps. Mais nous continuons à sensibiliser nos enfants, nos sœurs, nos frères qui peuvent arriver étudier pour essayer d'aider les malades.
Province du Kwilu, à l'occasion de l'ouverture de la quinzaine de la femme rurale, le maire adjoint de Bandundouville a sensibilisé les femmes sur la culture des volailles et de l'agriculture. Selon Rabi Ilouani, c'est pour nourrir toute la population et revoir à la baisse le taux de la malnutrition qui, selon lui, s'élève à plus de 45% dans le Kwilu. Le maire adjoint de Bandundouville rassure que son entité est disponible pour accompagner les femmes qui vont solliciter un appui. Irène Boma nous en dit plus.
Les ménages de la ville de Bandundu sont appelés à se donner à l'agriculture et à l'élevage des volailles dans la limite de leurs moyens. Cet appel a été lancé vendredi aux femmes par les maires adjoints de cette ville à l'occasion de l'ouverture de la quinzaine de la femme rurale. Pour Rabi Ilouani, cela pourrait réduire tant soit peu la malnutrition qui bat son plein dans la province du Kwilu en général et dans la ville de Bandundu en particulier.
Nous, quand nous avons vu les statistiques, Kwilu bat le record avec le plus grand pourcentage de la malnutrition. Nous conseillerons à toutes nos femmes de se donner à l'agriculture afin de nourrir l'ensemble de la population, réduire le taux de malnutrition dans la ville de Bandundu. Je demande à chaque famille de Bandunduville d'avoir à l'esprit la culture des volailles qui ne coûte pratiquement pas. Donc avoir un coq et une poule, ça ne demande pas beaucoup à avoir dans cette, chaque famille doit avoir cette petite culture de volailles.
Rabi Ilouani appelle aussi les femmes à solliciter toujours l'appui de la mairie qui est disposée à les accompagner afin qu'elles deviennent plus efficientes dans leur production agricole. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo. 30 détenus de la prison centrale de Kisangani ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle. 23 d'entre eux ont été libérés hier au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur par intérim, Maurice Abibou Sakapela. C'était à l'esplanade de la prison centrale de Kisangani. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Au total, 23 bénéficiaires, dont 17 civils, dont une femme et 6 militaires, ont reçu chacun son billet de sortie des mains des autorités présentes. Une occasion pour le représentant du procureur général de justifier l'acte posé par le chef de l'État en accordant sa grâce à certains prisonniers éligibles. Selon lui, l'article 87 de la Constitution nationale donne au président de la République, magistrat suprême, le droit et le pouvoir de réduire, de commuer ou tout simplement d'annuler la peine. Après l'appel nominal de tous les bénéficiaires et la remise de leur billet de sortie, le gouverneur de province par intérim, Maurice Abibou Sakapela, les a exhortés au changement de comportement.
La prison, dans d'autres sièges, on l'appelle maison de correction. Lorsqu'on vous met en prison, c'est pour vous permettre de vous amender, de corriger les imperfections qui vous ont mis à porte à faux avec les exigences de la vie communautaire.
Les détenus élargis ont promis de suivre ces conseils, comme en témoigne ce militaire. On dit qu'un enfant réceptif ne peut jamais retourner dans cette maison. Vraiment, papa nous a tiré les oreilles en nous disant « Je vous ai déjà pardonné, en quoi serais-je encore mauvais ?» Sept autres bénéficiaires de cette grâce présidentielle devront encore attendre pour certaines formalités administratives. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous en Ituri. Le commissariat de la police du secteur de Walindu-Piti, territoire de Djougou, a été doté hier d'un bâtiment construit grâce au financement des fonds de cohérence et de la MONUSCO. La cérémonie de remise de cet ouvrage a été présidée par le vice-gouverneur Akbandroma, chef-lieu de cette entité coutumière. L'objectif de cette action est de restaurer l'autorité de l'État dans le territoire de Djougou en proie aux exactions des miliciens de la CODECO. Isaac Remoyope, reportage.
Ce bâtiment est composé de 7 salles, dont 2 bureaux du commandant et de son adjoint, du secrétaire et de 2 amigos pour les détenus hommes et femmes et d'une salle d'accueil avec tous les équipements nécessaires, chaises, tables, armoires pour les classements des dossiers. Il y a également une latrine de 4 portes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des projets ESPAD, Ensemble pour la sécurité et la paix en territoire de Djougou pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette entité. Le vice-gouverneur Alonga Boni a déploré l'incendie de l'ancien bâtiment du commissariat de la police par les habitants. Il les a exhorté à collaborer avec les services de sécurité pour que la paix soit une réalité en territoire des Djougou.
Je suis persuadé que ce beau bâtiment, c'est un nouvel engagement que nous avons tous pris de faire asseoir l'autorité de l'État. Je vous demande d'être unis et rassemblés autour de l'État. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État.
De son côté, le chef de secteur a demandé à la police de bien dire les droits et de ne pas se verser dans les tracasseries et la corruption pour gagner la confiance de la population.
Et nous encourageons les acteurs de la justice à faire correctement leur travail. À la police nationale, nous vous encourageons à interpréter la loi et rien que la loi. Ne vous laissez pas noyer dans la corruption.
Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Et du côté du Nord Kivu, la MONUSCO, à travers la composante police des Nations Unies, UNPOL, a remis un don hier, constitué notamment des produits alimentaires. À l'orphelinat Tout est grâce à Butembo, ce geste caritatif a été salué par les bénéficiaires, de même que par les autorités locales présentes à cette cérémonie. Pour la MONUSCO, ceci rentre dans le cadre de ses activités d'assistance aux personnes vulnérables. Grâce à Mzati, reportage.
Ces dons est composé entre autres des sacs de riz, des farines de maïs, des haricots, des cartons de savon, des laits, des sucres, des sels ainsi que des bidons d'huile pour ne citer que ceux-là. Émile Adjekossi, le chef secteur ad intérim et chef des opérations UN Paul Butembo, explique.
La MONUSCO mène plusieurs activités, dont l'assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées. C'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui pour partager un petit instant de bonheur avec nos enfants, ces enfants en difficulté.
Tout en remerciant la MONUSCO pour ses gestes caritatifs, les bénéficiaires invitent la mission onusienne à multiplier ces genres de gestes pour la cause des vulnérables. Stella Stig est l'une des responsables de cet orphelinat.
C'est une immense joie. On ne s'attendait pas à ce que la MONUSCO puisse nous donner ou venir nous visiter avec une grande délégation d'abord, aussi différente, donc vraiment ça nous comble de joie. Il faudra qu'ils continuent à venir nous visiter comme ça, aussi de plaider auprès d'autres partenaires pour la prise en charge de la scolarisation.
Notons que les casques bleus marocains ont aussi contribué à cette donation envers une vingtaine d'orphelins. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le président turc entame aujourd'hui une visite sur le continent africain jusqu'à mercredi prochain. Recep Erdogan est attendu en Angola ce dimanche même. Il se rendra ensuite au Nigeria, puis au Togo. Selon certaines sources, les tournées qu'effectue régulièrement le président ou des hauts responsables turcs en Afrique montrent la place du continent africain dans la politique étrangère de la Turquie. Soudan, des milliers de manifestants sont descendus hier dans les rues de Khartoum en face du palais présidentiel où siègent les autorités de transition. La mobilisation est menée par deux anciens chefs rebelles, dont l'actuel ministre des Finances. Les protestataires exigent la chute du gouvernement de Abdallah Hamdok. Et puis, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage hier aux victimes de la répression sanglante du 17 octobre 1961 à Paris. 60 ans après, alors que le bilan de cette journée tragique est toujours inconnu et très discuté, on parle de plus de 100 morts. Le geste du président Macron et ses mots sont loin d'avoir satisfait les descendants des victimes.
L'invité.
Il s'agit du docteur Franck Mouindo Fikiri, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni. Avec lui, nous revenons sur ses inquiétudes par rapport à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni en cette période où les infirmiers sont en grève. Docteur Franck Mouindo s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Franck Mouindo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni. Face à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni, dites-nous, est-ce que aujourd'hui l'hôpital général de référence de Beni est-il prêt à recevoir des cas?
Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous sommes dans les préparatifs depuis le 8. Nous étions évidemment surpris de la résurgence, mais les niveaux de préparatifs à ces niveaux sont tels que nous sommes à même actuellement de recevoir certains cas qui peuvent éventuellement arriver, qui sont d'ailleurs en train d'arriver. Nous sommes en train de les prendre en charge actuellement dans les isolements provisoires qui sont installés actuellement à l'hôpital général de Beni en attendant que le centre de traitement en cours de construction puisse être opérationnalisé.
La maladie à virus Ebola refait surface pendant que les infirmiers sont en grève. Êtes-vous inquiet de cette grève des infirmiers lancée il y a bien longtemps?
C'est une grande inquiétude que nous avons par rapport à ce contexte-là. Effectivement, s'il va falloir que les staffs infirmiers et même les staffs médicaux, s'il va falloir qu'ils restent et cadrent dans leur mouvement de grève, ça va impacter très négativement sur cette riposte qui reste. C'est une riposte qui doit être musclée au départ pour aboutir à des résultats ou pour mettre des résultats sur table. Il faut vraiment un consensus et une grande partie de la volonté de tout un chacun, notamment les staffs infirmiers et le corps médical. Tous les corps soignants vraiment doivent arriver à se dépasser par rapport au mouvement de grève pour essayer de booster d'une façon musclée cette épidémie.
Et pensez-vous que cet état des choses est préoccupant?
C'est très préoccupant, monsieur le journaliste, parce que les revendications des grévistes restent toujours là. Les revendications n'ont pas encore trouvé guère de cause. C'est une occasion aussi pour faire une interpellation au gouvernement, de pouvoir aussi avancer avec les staffs. Les staffs peuvent avoir une bonne volonté de pouvoir mettre leur contribution à l'action, mais il faudra aussi que le gouvernement, cette fois-ci, voit un peu dans quelle mesure ils peuvent accompagner les staffs dans cette situation ici, étant donné que tout le monde, nous devons nous souder pour vraiment éradiquer cette épidémie qui, du reste, a causé encore des désastres dans cette communauté de Beni. Il ne faudrait pas que l'on en arrive encore à ce niveau pour une raison ou une autre, surtout par rapport au mouvement de grève. Et nous pensons que tout le monde va mettre un peu de sa volonté pour que les histoires marchent.
Selon vous, la grève des infirmiers peut impacter négativement sur la prise en charge des malades confirmés d'Ebola?
Effectivement, si le corps soignant n'est pas motivé, qui peut alors prendre en charge les malades? Et sur le plan surveillance, c'est tout un arsenal, c'est toute une ressource humaine compétente qui doit être activée pour encadrer ou accompagner toutes les mesures de la riposte. Donc, s'ils sont démotivés, sûrement ça va impacter négativement la riposte.
C'est quel message lancez-vous aux infirmiers prestants, mais aussi aux autorités?
Par rapport aux infirmiers prestants, même pas les infirmiers seuls, les médecins aussi, nous sommes dans le même paquet parce qu'aucune revendication des grévistes n'a été prise en compte jusque-là, mais nous en appelons aux uns aux autres de revenir à la conscience professionnelle et au serment prêté. Nous pensons que si nous mettons tout et chacun un peu d'eau dans son vin, nous pouvons arriver à nous dépasser et nous mettre au service de la communauté et soigner les malades. Et quant aussi au gouvernement, de pouvoir aussi considérer cette bonne volonté, déjà qui est là, qui s'est manifestée déjà, parce que les staffs, les corps soignants, vraiment sont en train de travailler sur le terrain de manière impeccable.
Docteur Franck Mouindo, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni était avec André Kitenge. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba, à la technique Jean-Noël Mokondo Yogo et devant ce micro Belinda Bosuma. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiocapi.net. Merci.